Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Le 17 juin 1940, il est midi, l'heure est grave. La France s'est effondrée et Philippe Pétain accède au pouvoir. C'est son discours le plus célèbre, tristement célèbre.
Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes.
Ce fut plus qu'un discours, ce fut un acte de celui qui fut considéré comme le plus humain de nos chefs pendant la Première Guerre mondiale.
Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander.
Vive le maréchal !
Ce discours hante encore aujourd'hui la société française.
Monsieur Philippe Pétain.
Philippe Pétain.
Maréchal Pétain.
Philippe Pétain. Pétain.
Depuis 80 ans, les mêmes questions reviennent sans cesse. Philippe Pétain voulait-il s'emparer du pouvoir ? Lui qui n'a cessé de clamer qu'on était venu le chercher. Et comment tout un peuple a-t-il pu se livrer à lui en juillet 1940 ? A-t-il trahi la confiance des Français ?
Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Pour atténuer son malheur, Philippe Pétain va mettre en place la Révolution nationale, qui visait à exclure du corps social les mauvais Français. Ainsi, sous la figure du père, le vieux maréchal se voulait protecteur.
En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude.
Ce discours dure seulement 1 minute 30, 240 mots. C'est peu, mais c'est suffisant pour incarner l'effondrement national qui a conduit l'État français sur le chemin tragique et honteux de la collaboration avec les nazis.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
À toutes les questions qui se posent encore aujourd'hui, sur ce passé qui ne passe toujours pas, se dessinent, je l'espère, des réponses dans cette série inédite en 10 épisodes, où les 12 plus grands historiens de la période vont vous délivrer leur regard expert et parfois opposé sur la figure et la vie de Philippe Pétain.
Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail.
Voilà, vous l'avez entendu en entier, ce discours. 90 secondes en 1940. En 2022, le péril consisterait à vouloir séparer Philippe Pétain de la société et de l'époque dans laquelle il a vécu pour en dresser aujourd'hui le portrait simpliste d'un traître. Or, la trajectoire du maréchal Pétain est plus complexe. Son fantôme nous tente un miroir dans lequel nous craignons de nous regarder par peur d'y apercevoir les fractures françaises. Mais il faut analyser les choix et le destin de Philippe Pétain en se prémunissant de nos émotions. Les émotions ne doivent en aucun cas prendre le pas sur le savoir et la réflexion. Le cas Pétain n'échappe pas à la règle, il faut le sonder à l'aune de son temps. Faisons de l'histoire.
Ici Vichy, la voix de la France.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain.
Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles.
Premier épisode, le fils de la morte.
C'est moi seul que l'histoire jugera. Jugera.
L'histoire commence le 22 juillet 2021. Nous sommes sur l'île Dieu, au large de la Vendée. C'est là que Philippe Pétain a été enterré, il y a 70 ans, au cimetière marin de Port-Joinville. Curieux, je me suis demandé qui viendrait sur la tombe du vieux maréchal pour le 70e anniversaire de sa mort, le 23 juillet 1951, à l'âge de 95 ans. J'ai donc décidé d'envoyer sur place notre reporter, Martine Abatte.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez repeint la tombe ?
Oui. Je l'ai repeinte ce matin et là, je brosse les lettres.
Ainsi, le 22 juillet dernier, à midi, sous un soleil de plomb, Martine Abatte s'approche du caveau où un homme s'active.
Vous avez poli les lettres Philippe Pétain, maréchal de France, c'est ça ?
C'est ça.
Et vous les repeignez souvent ?
Tous les ans.
Tous les ans, au moment de l'anniversaire ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Il y a l'association tous les ans qui me demande de faire l'entretien, le taillage des arbres, la peinture.
C'est l'association
Des bétinistes, vraiment, qui prennent contact avec nous, avec l'entreprise des bombes funèbres, et qu'on fait l'entretien des tombes aussi dans le cimetière. On évite de faire trop avant, parce que généralement, elle est vandalisée. Donc on fait ça juste la veille ou l'avant-veille, quoi. Des tags, il y a eu tout. Il y a eu un conteneur poubelle qui a été jeté dessus, qu'ils ont eu le feu. Il y a des gens qui défèquent dessus. Il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des rondes de gendarmerie qui sont faites. Les portails du cimetière sont fermés la nuit à cette époque pour pas qu'il y ait de problème. Mais les gens passent par-dessus le mur, quand même.
Hop.
La stèle de Philippe Pétain sera bien prête pour la commémoration.
Là, voilà.
Et le lendemain, arrivent les premiers pèlerins du pétainisme.
Aujourd'hui, c'est le 23 juillet 2021. Et je vois arriver un vieil homme avec sa barbe blanche. Il est accompagné d'une femme avec un tailleur et un chapeau assez chic, avec un bouquet de fleurs à la main. Et lui porte un béret vert avec un écusson. Il fait très chaud, mais malgré ça, il porte une veste bleu marine constellée de médailles. Et il porte aussi une grande housse en bandoulière.
Bonjour, monsieur. Vous avez amené un drapeau français ?
C'est le drapeau du Cercle National des Combattants.
Honneur et patrie. Vous avez mis vos gants, vous avez votre drapeau, vous avez mis votre béret.
Oui.
Comment vous appelez ?
Louis de Condé.
Né en 1939, Louis de Condé a participé à l'attentat du Petit Clamart, visant à assassiner le général de Gaulle en août 1962. Louis de Condé, c'est l'Algérie française.
Je suis très triste. Il y a une version officielle de la guerre, mais cette version-là est mensongère. Et nous, ce que vous appelez les pétainistes, nous sommes fidèles au maréchal et nous connaissons l'histoire de France. Parce qu'il est bon de savoir que le maréchal Pétain lui-même, quand il a accepté de devenir le chef de l'État français, il savait, pour parler vulgairement, qu'on lui mettrait tout sur le dos. Et la défaite, dont il n'était pas responsable, et la suite. Et néanmoins, il a accompli son devoir jusqu'au bout. Voilà. Et pour moi, c'est une grande honte de la France. C'est un abominable scandale qu'il ait été jugé et condamné à mort. Bon, il a été gracié, mais il a été condamné à mort. C'est un des plus grands scandales de la France du XXe siècle.
Quel âge vous avez, monsieur de Condé ?
J'ai 82 ans et quelques mois.
Après Louis de Condé, arrive un autre type de pèlerin.
Sa femme le prend en photo devant la tombe de Pétain. Il sort de son sac un t-shirt qu'il enfile pour prendre la pose. Et sur le t-shirt, on peut lire « It's cool to be white ». C'est cool d'être blanc.
Et vous, vous vous dites pétainiste ?
Ah non, moi je ne suis pas... Maintenant, pétainiste, c'est un terme qui est révolu, puisque le maréchal déjà est mort. Donc, tout simplement, moi je connais l'histoire, et puis je reconnais que Philippe Pétain a essayé, dans la mesure du possible, de sauver la France. En fin de compte, il a fait don de sa personne à la France, et je pense que c'est une personne qu'on devrait mieux respecter, mieux étudier. Là, il est vilipendié par la population. Maintenant, c'est un symbole fort. Et j'aime bien me prendre en photo devant ce personne qui avait quand même des idées intéressantes et qui serait bon peut-être de relire, d'étudier.
Lesquels, par exemple ? Qu'on peut retenir ?
Tout simplement, déjà, il a changé la trilogie « Liberté, égalité, fraternité » en « Travail, famille, patrie ».
Ça vous plaît plus ?
Ça me paraît plus dans l'air du temps, tout simplement, puisque maintenant, si vous étudiez « Liberté avec la dictature sanitaire », si vous étudiez « La fraternité », je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est le communautarisme à tout craint. Et l'égalité, il n'y en a plus, bien sûr, puisqu'il y a bien sûr différentes strates dans la population. Donc tout ça, c'est des concepts un peu vaseux. Le travail, famille, patrie, c'est des choses qui sont tout à fait classiques. On vante le travail, on vante la famille et la patrie. Patrie, c'est la France, point barre. Ça ne me paraît pas extrémiste comme discours, tout simplement.
Vous vous sentez plus proche de ces valeurs-là ?
Je me sens tout à fait proche de ces valeurs-là. Oui, je revendique cette France traditionnelle qui part un petit peu à volo. Et ça, pour moi, c'est une grande tristesse. Parce que je sens que la France éternelle a tendance à se dissoudre dans des éléments qui sont extra-européens maintenant. Et ça, on ne va plus ressembler à rien. Dans quelques années, c'est la fin de la France pour moi.
Quoi votre prénom ?
Bertrand.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Ces deux visiteurs de l'été 2021 nous disent combien Pétain peut encore incarner pour certains une France éternelle, rétrograde et fantasmée. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, la France éternelle ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ? Le mieux peut-être, pour essayer de comprendre, c'est de tout reprendre depuis le début. D'où viens-tu et qui es-tu, Philippe Pétain ?
Conchy à la Tour, un petit village comme tant d'autres dans le nord de la France. Ici naquit Philippe Pétain. Ici apprit à travailler dans cette même école celui qui, en 20 ans, devait sauver la France par deux fois.
Henri, Philippe, Benoni, Omer Pétain est né le 24 avril 1856 à Cauchy à la Tour, dans le nord de la France. À quoi ressemblait le monde dans lequel est arrivé ce nouveau-né ?
Alors, nous sommes sous le Second Empire, lors de la naissance de Philippe Pétain.
Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne et biographe de Philippe Pétain.
Dans une France du Nord encore pré-industrielle, l'exploitation minière commence à peine aux alentours de Cauchy à la Tour. Il est d'ailleurs lui-même le fils d'un cultivateur, descendant d'autres cultivateurs. Donc c'est la France d'Arthur Rimbaud et c'est la France d'Émile Zola, par exemple. C'est cette France-là.
Toujours la terre, la nourrice serait là, qui nourrirait ceux qui l'ensemenceraient. Elle avait l'espace et le temps. Elle donnait tout de même du blé, en attendant qu'on sût lui en faire donner davantage. La terre n'entre pas dans nos querelles d'insectes rageurs. Elle ne s'occupe pas plus de nous que des fourmis. La grande travailleuse, éternellement à sa besogne.
Philippe Pétain est bien un homme du 19e siècle. C'est là qu'il s'est construit de l'adolescence à l'âge adulte. Et effectivement, il a déjà plus de 50 ans au moment où éclate la Première Guerre mondiale, qui est la césure qu'on donne artificiellement pour faire la séparation entre le 19e et le 20e siècle. Oui, c'est un homme du 19e siècle et il restera jusqu'à sa mort en 1951 un homme du 19e siècle.
Est-ce qu'on peut décrire le monde social dans lequel apparaît Philippe Pétain ? Quelle est l'origine familiale du maréchal Pétain ?
Alors, c'est le quatrième enfant et le premier fils d'un cultivateur raisonnablement aisé, ni pauvre ni riche, donc du Pas-de-Calais, qui s'est marié relativement tard. Sa mère vient d'une famille également de cultivateurs, mais avec des gens qui ont fait des études et qui, par exemple, sont devenus prêtres. Et sans doute, l'événement le plus fort de cette toute jeune vie, c'est le fait qu'il perde sa mère. Elle meurt en couche, comme beaucoup de femmes de cette époque. Il n'a qu'un an et demi. Et c'est un véritable traumatisme. Bien entendu, il ne parlera pas avant d'avoir atteint 3 ans. Et son père va se remarier très vite et il n'aura pas de place et ses sœurs aînées non plus dans le nouveau foyer de son père. Il avait l'habitude de dire que c'est de cette situation pénible et fausse qu'il avait hérité cette tendance à la réserve, au mutisme, à l'extrême prudence et aussi à se débrouiller par lui-même.
Allocution de Philippe Pétain, 5 avril 1930. Sur la profonde détresse du jeune orphelin, la nature jette un voile bienfaisant. L'insouciance de l'enfant lui épargne de tragiques angoisses. Mais, avec les années, les yeux s'ouvrent aux dures réalités. Sans ressources, sans appui pour se diriger à travers les obstacles de la vie, l'orphelin regarde l'avenir avec inquiétude.
Monsieur le maréchal.
Noël 1942, à Vichy.
Voici 4 millions 200 000 francs qui ont été gagnés par les écoliers de France. Ils mettent cet argent à votre disposition et vous avez décidé qu'il servirait à aider des petits Français de leur âge particulièrement malheureux. Des enfants de prisonniers dont la maman est morte depuis 1940. Des enfants dont les parents ont été gravement blessés ou qui sont morts au cours de bombardements. C'est un don que les écoliers de France, monsieur le maréchal, vous font avec tout leur cœur.
Le premier chapitre de votre biographie consacrée à Philippe Pétain s'intitule « Le fils de la morte », qui est un titre très fort. Qu'est-ce que ça sous-entend, cette expression, pour le tout jeune enfant orphelin qu'il est, Bénédicte Berger-Chenu ?
Alors, les fils ou les filles de la morte, c'est effectivement une expression très courante au XIXe siècle. On dirait sont les enfants d'un premier lit. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, il y a une nouvelle épouse du père et eux, eh bien, ce sont un peu, bien que ce soit les aînés, des enfants de deuxième catégorie.
Donc c'est un rejet, hein.
C'est un rejet, c'est une mise à l'écart, même elle sera physique, puisque finalement, il ne va pas vivre chez son père, mais il sera élevé par ses grands-parents paternels, puis par son oncle maternel. Et sur un plan beaucoup plus symbolique, Philippe Pétain est quelqu'un qui a une image fantasmée et assez irréelle de ce que c'est d'avoir une mère, puisqu'il n'a pas connu ça. Donc il projette un peu sur sa grand-mère, dont il dit qu'il lui doit le meilleur de lui-même. C'est vrai que...
Il le dira jusqu'à très tard dans sa vie.
Jusqu'à très tard, parce que, en fait, c'est plutôt sur sollicitation pour des discours, pour des événements, qu'il prendra la parole sur les mères, très très peu sur la sienne, bien entendu, parce qu'il faut bien préciser que Philippe Pétain n'est pas du tout porté sur les confidences personnelles.
Extrêmement pudique.
Extrêmement
pudique. Et secret.
Pudique et secret. Mmh. Voilà. Il aime la protection de sa vie privée au point d'interdire à ses proches, lorsqu'il sera devenu célèbre, de s'épancher auprès des journalistes ou des biographes, ce qui n'arrange pas les historiens actuels.
Alors, vous l'avez dit, il a perdu sa mère à l'âge de 18 mois. Vous avez commencé à esquisser un petit peu la réponse, mais qui va donc s'occuper de l'éducation de Philippe Pétain, Bénédicte Berger-Chenu ?
Dans la mesure où Philippe Pétain n'est plus le bienvenu dans la maison de son père. Il est confié presque immédiatement à une petite bonne d'enfant, à laquelle il gardera beaucoup d'affection jusque très tard. Et puis, d'abord à ses grands-parents paternels, à proximité de chez son père quand même. Et puis, à l'âge de l'école primaire, il est confié à son oncle maternel, qui est curé un peu plus loin. Et c'est un prêtre qui a enseigné lui-même dans un collège religieux et qui va le préparer à entrer dans cet enseignement, qui est un enseignement de qualité, auquel il va accéder grâce à une bourse qu'il doit à un autre de ses grands-oncles, prêtre lui aussi. Donc, ça ne le destine pas forcément à la prêtrise, mais en tout cas, on lui fait faire des études parce qu'il est évident d'ores et déjà que ce n'est pas lui qui va succéder à son père sur l'exploitation agricole que celui-ci possède. Son père a eu un fils de son deuxième mariage et donc il va falloir qu'il se trouve une situation.
Alors il aurait pu en effet devenir prêtre, ce jeune Philippe Pétain, mais non. Très jeune, dès l'âge de 15 ans, il va faire un autre choix, d'autres ordres.
À mon commandement, l'arme sur l'épaule.
Qui est donc l'uniforme militaire.
Aïe.
Bénédicte Vergé-Chaignon, qu'est-ce qui pousse le tout jeune Philippe Pétain à vouloir embrasser la carrière militaire?
Le choix de la carrière militaire par Philippe Pétain a sans doute une petite part de rébellion, car sa belle-mère aurait souhaité qu'il devienne prêtre de façon à ce qu'il ne coûte rien à sa famille. Donc déjà ne pas accepter ça, c'est marquer la distance avec sa belle-mère. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'empreinte de la défaite lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871.
Que se passe-t-il?
Nous avons pris Sedan. Et votre empereur est prisonnier de Sa Majesté Wilhelm. Es tut mir leid. Désolé.
Même si le Nord-Pas-de-Calais a été préservé de l'invasion et de l'occupation prussienne pendant les combats, c'est pour cet adolescent, comme pour toute cette génération, un considérable traumatisme auquel s'ajoute eh bien, l'admiration d'un petit garçon ou d'un adolescent qui voit certains officiers en ville, puisqu'il est au collège à Saint-Omer, toujours dans le Pas-de-Calais, et donc il a envie de participer à ce mouvement de la jeunesse qui les porte à préparer la revanche contre l'Allemagne, à essayer de recouvrer l'Alsace-Lorraine perdue. Donc, c'est aussi un engagement de foi. Hein, ce n'est pas que pour embêter sa belle-mère qu'il fait ce choix, qu'il va pousser très logiquement, puisqu'il va partir préparer le concours de Saint-Cyr dans la banlieue parisienne, dans la meilleure école de préparation, pour devenir un officier d'infanterie.
Rappelez-vous bien ceci. Notre chancelier Bismarck a déclaré « Straßburg ist und bleibt eine deutsche Stadt. Straßburg est et restera une ville allemande. »
Discours du maréchal Pétain à Montceau-les-Mines, le 5 juillet 1936. Les hommes de ma génération avaient de 14 à 16 ans. Lorsque l'Alsace et la Lorraine furent arrachées au sol de la patrie comme un lambeau de chair vive. Nous ressentîmes cruellement l'humiliation de la défaite, et une volonté passionnée de l'effacer porta beaucoup d'entre nous vers la carrière des armes.
À genoux les hommes !
Que ton nom soit immortel dans notre histoire.
Pendant 40 ans, mes camarades et moi avons travaillé avec ferveur pour que les provinces perdues redeviennent françaises.
Alors le voilà, officier d'infanterie. À quoi ressemble-t-il ce jeune homme de 20-25 ans quand il sort de Saint-Cyr? Est-ce qu'il est séduisant? Physiquement, il ressemble à quoi, Philippe Pétain, en 1880?
On dispose de peu de photos, donc en réalité, ça nous est un petit peu difficile de nous faire une opinion personnelle sur ses attraits physiques. Nous savons néanmoins, y compris de par des personnes qui ne lui étaient pas très favorables, qu'il a un véritable pouvoir de séduction. Il est blond, il a les yeux bleus, il a une moustache, il est sportif, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes de la fin du 19e siècle, alors comme on l'entend à l'époque, c'est-à-dire il pratique l'escrime, il pratique l'équitation, la marche, puisqu'il est officier de chasseur à pied, ce qui est le top de la sportivité et de l'élégance de l'infanterie française à ce moment-là. Il ne manque pas d'humour, c'est un agréable causeur. Sans être un homme d'une grande culture, il n'est pas du tout ignorant. Il lit, il a une bonne mémoire et il est toujours partant pour un bal masqué, une fête, enfin, il se joint très bien au réseau de sociabilité dans les villes de garnison où il se trouve. Il est charmant, il est sympathique, les hommes l'apprécient aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les séducteurs. C'est vraiment un homme qui est bien inséré dans la société et dans sa profession.
À la fin des années 1880, le jeune Saint-Cyrien Philippe Pétain est admis à l'École supérieure de guerre à Paris. Il en sort breveté 2 ans plus tard, à la 56e place. Disons-le, un classement assez moyen. Car il faut savoir qu'à l'époque, le capitaine Pétain a une autre obsession que l'armée dans la vie, les femmes.
Monsieur. Bonsoir.
Il multiplie les maîtresses et fréquente même assidûment les maisons closes.
Alors, on fait commerce?
Non, pas aujourd'hui.
Pourquoi?
Parce que...
C'est dommage.
Formidable ici. Tu peux voir les filles sans corset.
Alors, oui, il fréquente des prostituées. Ça fait partie de la sociabilité des officiers et des hommes dans les villes de garnison à cette époque-là. Mais il a par ailleurs une vie sexuelle et amoureuse, et ou amoureuse, intense et variée, car il a l'habitude d'entretenir plusieurs liaisons à la fois, des amitiés amoureuses, éventuellement platoniques, des liaisons surtout sexuelles, et toute la gamme entre, appuyée souvent sur une intense correspondance. On peut deviner qu'il consacrait quand même une part non négligeable de sa journée à écrire, à ses amis, à ses maîtresses, et bien cela perdure décennie après décennie, d'autant que donc il ne s'est pas marié avant la guerre de 1914.
Lettre de Philippe Pétain à une correspondante non identifiée, printemps 1919. Comme il y a de grandes chances pour que je sois libre samedi, je m'arrangerai pour arriver à Paris à 3h15, Jeanne étant convoquée à 4h. Si tu viens avant, nous pourrons nous voir un instant seuls et je me cacherai à l'arrivée de Jeanne, comme tu me le demandes. Je suis très content que tu m'invites à assister caché à la petite fête. Je puis bien t'avouer maintenant que je ne me suis pas privé de le faire plusieurs fois à l'insu de vous deux, et je t'assure que rien n'est plus excitant. J'aimerais qu'à son arrivée, tu te montres très gentille et très caressante.
Je pensais à vous.
Que tu l'entraînes sur le divan de la chambre à coucher dès que les robes seront tombées et avant même que les chemises soient enlevées et que tu te donnes le plaisir de la faire frissonner sous les caresses répétées de tes lèvres et de tes mains. Je t'embrasse follement.
Il y a 2 aspects dans ces correspondances. On sent chez lui l'excitation, le désir de créer l'excitation par les mots. Et on sent aussi un homme très porté sur des pratiques sexuelles, pas forcément dans la norme.
Alors, nous disposons, dans la correspondance amoureuse de Philippe Pétain, d'assez peu de ses lettres à lui. Mais certaines de ses lettres montrent que l'écriture et l'anticipation du plaisir, qui est son grand mot en l'occurrence, tiennent une grande place dans sa vie érotique. Il aime organiser ce qui peut être du triolisme, ce qui peut être du voyeurisme. Alors, je ne sais pas si nous allons au-delà de l'écriture et du fantasme, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est aussi un écrivain érotique, en quelque sorte.
La mobilisation générale est imminente. Ils ont envoyé les affiches à l'imprimerie. J'en ai un exemplaire. Putain, l'effet que ça fait.
quand la Première Guerre mondiale éclate, il a donc 58 ans, Philippe Pétain, il est colonel. Très vite, il va être nommé général. Et quand il prend le commandement de Verdun en février 1916, où est-il précisément ce jour-là?
Alors, l'histoire dit qu'il est avec une de ses maîtresses, la maîtresse principale du moment, Eugénie, dans un hôtel près de la gare du Nord à Paris, où va devoir le dénicher son officier d'ordonnance, heureusement bien au courant de ses habitudes. En fait, Eugénie, c'est celle qui deviendra sa femme après la guerre. Il a eu une première liaison avec elle quand elle était toute jeune. Ils ont une petite vingtaine d'années d'écart. Et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et ils se sont retrouvés en 1910. Et depuis, ils entretiennent une relation passionnelle de « je t'aime, moi non plus ». Ils n'arrêtent pas de se disputer, de rompre, de se réconcilier intensément. Il la trompe, elle le trompe. Et à Verdun, bizarrement, leur amour culmine. Et pendant la bataille de Verdun, et c'est une source merveilleuse pour nous, il lui écrit presque tous les jours. C'est une source merveilleuse, mais limitée, puisqu'en fait, il lui écrit pour lui parler d'amour, et pas pour lui parler de la bataille.
Baïonne à ton canon ! Pour la France ! En avant !
Ce qui est troublant, Bénédicte Verchénion, c'est que, après Verdun, Philippe Pétain devient extrêmement célèbre.
Brancardien !
Il était inconnu
il était illustre. Connu de quelques petits cercles, bien sûr militaires, politiques. Il avait des amis, mais ça s'arrêtait là. Et presque du jour au lendemain, il devient une célébrité non seulement française, mais internationale. Parce que la presse américaine vient à Verdun faire des reportages et s'intéresse à lui. Et au fond, à ce moment-là, les femmes qui s'intéressaient déjà à lui s'intéressent encore plus à lui maintenant qu'il a cette immense notoriété. Donc c'est vrai que tout en ayant cette relation passionnée avec Eugénie, eh bien, il porte ses hommages et plus ses affinités ailleurs amplement.
Mon aimé chéri, où te trouves-tu ? Es-tu toujours dans la lutte acharnée autour de Verdun ? Je suis anxieuse, je voudrais tant de tes nouvelles. C'était si bon de t'avoir un peu à moi l'autre jour.
Toi, tu es un vilain chiffon.
Je voudrais être dans tes bras,
mon chéri. Si je te tenais dans mes bras, tu y passerais un mauvais quart d'heure.
Je voudrais bien être près de toi aux instants de la chair de poule.
Et sentir venir le délicieux abandon.
Tu me demandes de t'écrire des choses tendres. Il faut me dire d'abord si d'autres t'en écrivent. S'il y a concurrence ? Henriette, André, Geneviève, Marie, Marthe, anonyme. Mon amour, quand me reviendras-tu ?
Et ce qui est troublant, c'est qu'on possède plusieurs milliers de lettres d'admiratrices passionnées, enflammées, qui écrivent au maréchal Pétain.
Alors, oui.
Et il suscite le désir.
Alors, il y a les différentes strates parmi ces lettres qui sont conservées aux archives militaires. Donc, il y a vraiment les groupies, les fans, ce ne sont pas forcément des femmes qu'il connaît. Il y a des femmes avec lesquelles il a eu des relations par le passé et un nombre assez étonnant de femmes avec lesquelles il a encore une liaison d'un type ou d'un autre. Ça culmine de façon matérielle lors du défilé de la victoire, le 14 juillet 1919, où en fait, différentes de ses maîtresses vont se poster sur son trajet, dans la foule, à une fenêtre, sur un balcon, pour le voir passer, et donc lui écrivent pour lui dire « fais-moi signe quand tu seras à tel endroit, quand tu passeras sur ton cheval blanc à la tête des armées françaises ». Le cheval s'appelle Monsieur Monastir. Donc, je suppose qu'il a passé son temps à faire coucou à droite, à gauche, sur le trajet, à différentes femmes.
Mais ce qui est troublant, c'est que quand on lit ces lettres, on comprend déjà, dès 1916, 17, 18, 19, 20, le magnétisme de Philippe Pétain sur une certaine partie de la population française.
Oui, parce qu'il n'y a pas que des lettres de femmes parmi ces lettres d'admirateurs. Il y a beaucoup de lettres de Français qui veulent lui exprimer leur reconnaissance. Et en dehors du contenu des lettres, il y a les libellés des enveloppes qui sont très frappants, puisque en fait, il est d'une telle célébrité qu'on écrit simplement « Général Pétain, Verdun » ou bien « Le sauveur de la France, Verdun ». Enfin, voyez, des libellés comme ça, et le courrier lui arrive. Et il est bien entendu submergé, hein, il n'a pas le temps de tout lire. Un peu amusé, un peu intrigué, et bien entendu flatté, heureux qu'il ne le serait pas.
Mademoiselle, savez-vous que monsieur le maréchal était déjà à la retraite au début de la guerre de 14?
Mais...
Et je ne parle pas de notre mariage.
Vas-tu m'en rappeler jusqu'à la tempe que tu m'as forcé à t'épouser?
Parfaitement. Au revolver, le canon sur la tempe. J'aurais tiré, tu sais. J'avais divorcé pour toi, je n'aurais pas toléré une nouvelle dérobade.
En 1920, Philippe Pétain est toujours célibataire, il a 64 ans, mais il décide d'épouser donc Eugénie Ardon, qu'on va appeler Annie par la suite, ouais. Annie Pétain. C'est un mariage qui va durer jusqu'à ce que la mort les sépare en 1951, Bénédicte Verger-Chaignon. Néanmoins, est-ce que Philippe Pétain est soudain devenu un époux fidèle?
Alors, Philippe Pétain devient en 1920 un époux résigné, dont personne... et peut-être pas lui-même n'a compris pourquoi il se mariait avec Eugénie, donc future Annie Pétain. Parce que dans les mois et les semaines qui précèdent, il a proposé le mariage à plusieurs autres femmes qui ont refusé, alors l'une parce qu'elle avait des enfants en bas âge, elle était veuve et elle craignait que ça soit un traumatisme pour ses enfants. Une autre était déjà mariée, c'est la cantatrice Germaine Lubin qui ne voulait pas divorcer pour l'épouser. Il continuait à avoir des maîtresses. Et puis, à l'été 1920, il explique à Eugénie que non, décidément, il ne souhaite pas se marier et il l'épouse en septembre. Les amis du maréchal Pétain disaient que... C'était parce qu'elle l'avait menacé d'un revolver et d'un scandale qu'il s'était résigné. C'est romanesque, mais je ne pense pas que ça soit ça. L'hypothèse de ma part, c'est qu'il s'est dit qu'il se mettrait à l'abri de sollicitations féminines et de scandales potentiels qui nuiraient à sa dignité de maréchal de France en se mariant. Et effectivement, il... s'accommodait bien avec Eugénie. Après, c'est un mariage très particulier, puisque monsieur et madame Pétain font appartement à part. Ils habitent tous les deux boulevard des Invalides, chacun son appartement, communiquant par les salons. Lui est très souvent en déplacement, mais elle aussi. Elle a son propre cercle d'amis et de relations, il a le sien. Et il se plaint beaucoup... des mésententes qu'il peut avoir avec sa femme. On n'est jamais dans le mariage des gens, mais le leur fonctionne.
Lettre de Philippe Pétain à Monsieur Pichot-Duclos, 1er février 1909. N'oubliez pas que le point de départ de tous les malheurs qui font sur les hommes est le mariage. Une longue observation me permet d'affirmer que, s'il y a des mariages supportables, il n'en existe pas d'heureux.
La soupe est servie.
Ils n'ont pas eu d'enfants, parce que Eugénie était déjà assez âgée d'ailleurs lorsqu'ils se sont mariés. Philippe Pétain d'ailleurs n'a pas de descendance officielle connue. Mais quel rapport a-t-il eu dans le privé aux enfants, Bénédicte Verger-Chaignon?
Il était très bon compagnon avec les enfants de ses amis et éventuellement de ses maîtresses. Et quand il avait rompu avec elle, en général, il regrettait plus les enfants que les maîtresses. Il voulait bien jouer, il offrait des cadeaux, il était prêt à aider pour faire les devoirs. Il avait l'habitude de dire qu'il aurait aimé être veuf avec enfants. ce qui est très encourageant pour les femmes auxquelles il a proposé le mariage. En tout cas, c'est vrai qu'il avait manifestement une facilité à se lier avec les enfants. Il entretenait une petite correspondance très amicale avec certains d'entre eux. Alors, c'est vrai qu'il faut faire une différence aussi entre les filles et les garçons. Ils s'intéressaient plus à l'avenir des garçons, à leurs études qu'aux filles. Mais voilà, il était sympathique, il était bon compagnon.
Orphelin dès l'âge de 2 ans, puis rejeté par sa belle-mère, Philippe Pétain a sans doute développé une peur de l'abandon par les femmes. Et en même temps, une vision idéale de la mère qu'il n'a jamais eue. Une vision fantasmée tout au long de sa vie, y compris et surtout sous le régime de Vichy, où la famille, au sens traditionnel et sacré, fut centrale dans son projet politique.
Pierrot, va mettre la radio. Au discours du maréchal.
Mère de famille française.
Plus fort !
La France célèbre aujourd'hui la famille. Elle se doit d'honorer d'abord les mères. Depuis 10 mois, je convie les Français à s'arracher au mirage d'une civilisation matérialiste. Je leur ai montré les dangers de l'individualisme. Je les ai invités à prendre leur point d'appui sur les institutions naturelles et morales auxquelles est lié notre destin d'hommes et de Français. La famille, cellule initiale de la société, nous offre la meilleure garantie de relèvement. Un pays stérile est un pays mortellement atteint dans son existence. Pour que la France vive, il lui faut d'abord des foyers.
Elle est claire, ta soupe. Hein?
C'est tout ce qu'il y a. T'as encore faim? Oh.
Pour Philippe Pétain, la famille, c'est l'ordre.
L'historien Éric Alary.
La famille, c'est chacun à sa place. En gros, la mère s'occupera des enfants, s'occupera de la domesticité. Et de l'autre, le père, c'est celui qui permettra au foyer de vivre. Mais c'est aussi, pour lui, le lieu de la reconnaissance sociale, du partage. C'est le lieu aussi de la famille nombreuse. C'est-à-dire qu'aussi, avant la Première Guerre mondiale, on l'oublie souvent, la France est déjà en très grand déficit sur le plan démographique, puisque la France connaît un état de vieillissement très avancé. Alors après, dire que la femme n'a pas le droit de travailler, non. Chez les catholiques, les chrétiens, en général, les protestants, notamment dans le monde rural, la femme travaille, donc ça pose pas forcément un problème. Mais la femme est encore à sa place. C'est-à-dire que dans la ferme, la femme s'occupera de la domesticité, de la vente des œufs, et on s'occupera, évidemment, des enfants.
La France perd annuellement 35 000 habitants. Qu'arrivera-t-il le jour où une France anémiée, appauvrie de sa substance, se trouvera en face de pays surpeuplés émettant des revendications encore plus violentes? Pourra-t-elle y résister? Seule une politique de la natalité peut remédier à ce terrible danger. Pour que l'enfant redevienne, en France, l'ami public numéro 1.
L'enfant appartient à la patrie, la femme doit être l'instrument de cette condition nouvelle de l'enfant, futur soldat ou futur, on va dire, peut-être pas pétainiste, mais en tout cas, futur homme de la nation. Ce qui est clair, c'est que pour lui, la nation ne peut être consolidée que par l'ordre et par la famille. Voilà. La cellule de base qui doit être contrôlée, c'est évidemment la famille. Et la femme doit jouer un rôle primordial, on ne lui accordera aucune liberté. Elle doit être exemplaire, d'autant que les époux sont, pour beaucoup, faits prisonniers, sont en captivité. Donc attention à la femme qui fautera, la femme de prisonnier de guerre qui fautera, elle sera passible d'un certain nombre de lois qui vont être promulguées pendant l'occupation.
Depuis l'Antiquité, chaque peuple, une fois dans l'année, rend hommage à ses héros. À tous ceux qui ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. À tous les héros morts.
Moi, je vous demande une fois l'an d'offrir des fleurs de printemps à toutes les héroïnes vivantes. Oh, vous les rencontrez chaque jour, ces héroïnes. Elles n'ont ni auréole ni cuirasse d'or. Rien ne les distingue des autres femmes. Seulement sur leur visage, le même reflet de joie. Et toutes, elles portent le même nom, Ce sont les mamans.
Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain.
Mère de France, entendez ce long cri d'amour qui monte vers vous. Mère de nos tués, mère de nos prisonniers, mère de nos cités qui donneriez votre vie pour arracher vos enfants à la faim. Mère de nos campagnes qui, seules à la ferme, faites germer les moissons. Mère glorieuse, mère angoissée, je vous exprime aujourd'hui toute la reconnaissance de la France.
Il persiste une légende tenace à propos du maréchal Pétain, Éric Alary, sous le régime de Vichy. On entend encore souvent que Philippe Pétain aurait inventé la fête des mères en France. Or, ce n'est pas vrai. De quand date la fête des mères, Éric Alary, en France ?
Alors, la fête des mères, c'est une histoire internationale. Parce qu'avant, dans les années 1890, il y avait des pays, notamment aux États-Unis, donc des États américains, ou des entreprises plutôt américaines, où le patron était un paternaliste chrétien, où il existait des journées des mères. Alors parfois, en France aussi, notamment dans les années 1890, après la Grande Dépression économique, un certain nombre de patrons chrétiens, avaient une politique familialiste, paternaliste, d'accompagnement des familles, notamment des familles nombreuses. Et certains patrons en France ont mis en place un nombre d'allocations, de primes à l'enfant. Et puis, après la Première Guerre mondiale, des communes, comme Lyon par exemple, vont mettre en place des journées de la mère. Et puis, en 1920, l'État va se mêler de cette histoire, parce qu'après tout, c'est un bon instrument de propagande, et après tout, les Françaises aussi ont souffert pendant la guerre. Alors bref, en 1926, on peut dire que l'État va plus qu'insister pour qu'une journée soit décrétée fériée en l'honneur des femmes françaises, avant tout des mères. Donc Pétain trouve que c'est une excellente idée de fêter les mères, notamment la mère qu'il n'a jamais eue.
Donc la fête des mères, on va dire, est officielle en France à peu près en 1926.
Oui.
Cependant, donc, ce n'est pas Philippe Pétain qui l'invente, cependant il va ritualiser la fête des mères sous l'occupation dès le mois de mai 1941. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Éric Alary, de ritualiser la fête des mères sous le régime de Vichy ?
C'est une incitation à faire des enfants, c'est une incitation à régénérer le pays, et ça va de pair avec toute la politique qu'il y a dans le domaine de l'éducation physique, à l'école, dans le domaine du sport. Il faut régénérer les corps, et la femme est encore une fois invitée, presque contrainte par l'honneur qui lui est fait, par cette fête du mois de mai, contrainte de régénérer cette nation. Ça fait partie aussi de toute cette politique qui sert à embrigader également une société. Peut-être aussi à encourager les mères, dont il sait par les rapports des préfets qu'elles souffrent beaucoup.
Qu'est-ce que tu fais là dans cette eau jaune ?
C'est de la moutarde.
T'es enceinte ?
Bernard veut pas que je le garde. Il l'envoie travailler en Allemagne.
C'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser de ton môme.
Parmi les mères qui ont souffert sous l'occupation, des milliers d'entre elles ont dû avoir recours à l'avortement, notamment parce qu'il était extrêmement difficile de nourrir un nouveau-né en pleine pénurie. Néanmoins, la justice de Vichy fut intraitable.
Ainsi, pendant près de 2 années, vous avez, comme vous dites, rendu service un plus de 23 futures mères de votre pays. De notre pays. Et notre pays se serait bien passé de ce genre de service.
Sous la Troisième République, la coutume voulait qu'une femme condamnée à mort ne soit pas exécutée. Alors, les femmes qui avortaient ont été épargnées par la peine de mort, mais pas les avorteuses. Et donc, il va aller, Pétain, jusqu'à casser cette tradition. Il considère que l'avortement, c'est un crime contre la sûreté de l'État. Donc c'est très très grave. Et il va y avoir beaucoup de femmes, des milliers de condamnations entre 1942 et 1944. Je crois que c'est 4000 avorteuses qui sont, et femmes avortées qui sont condamnées dans cette période-là.
Accusé, levez-vous. Le tribunal, après avoir délibéré, condamne Marie-Jeanne Bayon, femme Latour, à la peine de mort. Dit que, conformément à l'article 12 du Code pénal, elle aura la tête tranchée. Garde, emmenez-la. L'audience est terminée.
Mon colonel.
Au final, la véritable famille de Philippe Pétain, celle où il se sentait bien, rassuré et protégé, ne fût-elle pas l'armée française ?
Alors, c'est certain que le tout jeune Philippe Pétain s'est cherché et s'est trouvé dans l'armée une famille, un milieu, un cocon. Il s'y est épanoui, il a été heureux. Il était un colonel, le colonel est le père du régiment, mais c'est vrai, voilà, il était attentif à ses hommes. C'est ce que ressentiront ou voudront ressentir les combattants de Verdun. Et du coup, comme c'est également sa seule expérience professionnelle, c'est pour lui l'image de tout en France et dans le monde. Et il va avoir tendance à calquer son fonctionnement sur celui de l'armée.
Jusqu'à mai-juin 1940, où il va incarner pour de nombreux Français et de beaucoup d'anciens combattants le père de la nation.
Absolument. La propagande va beaucoup jouer sur ce registre du père de la nation. Et bizarrement, lui est un petit peu plus réticent parce qu'il n'aime pas trop qu'on souligne qu'il est vieux. Par exemple, il n'aime pas qu'on le photographie avec ses lunettes parce que ça lui donne des années en plus. Tout le monde sait, je crois, à quel point, à 80 ans passés, il avait encore une allure physique étonnante.
Même très impressionnante.
Voilà.
Pour son âge à l'époque.
Pour son âge, mais même maintenant, je pense, avec beaucoup de dignité et qu'il était encore très dynamique et il ne faisait pas son âge, comme on dit très simplement.
Monsieur le maréchal de France.
Vive le maréchal !
Je suis très content de vous voir.
Monsieur le maréchal, chaque jeune fille a tenu à vous donner un brin de muguet chacune.
Sept jeunes filles seulement ?
32 !
32
jeunes filles.
Bon. J'espère que vous conserverez un bon souvenir de votre visite ici.
Oui,
au revoir, mesdemoiselles.
Au revoir, monsieur le maréchal.
Vive monsieur le maréchal.
Vive monsieur le maréchal.
Après une vie passée dans l'armée, Philippe Pétain fut sans doute un être rigide.
Il est militaire, au fond, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la moelle, pourrait-on dire. Et il n'accepte pas qu'on lui désobéisse. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il fait glisser vers l'intolérance extrême, vers peut-être la collaboration à outrance? C'est facile de dire c'est son entourage qui l'entraîne vers cela, mais est-ce que c'est pas lui, en premier lieu, qui, avec la rectitude du militaire, n'accepte pas, de toute façon, d'avoir tort?
Le père de famille contrarié.
Exactement.
En conclusion de ce premier épisode, il faut dire que Philippe Pétain fut l'enfant d'une éducation religieuse très stricte, solitaire et dépourvue d'amour maternel. Il n'a donc jamais cessé d'idéaliser la vie de famille au point de voir en l'armée française la famille de toute la nation, où il serait, lui, Philippe Pétain, l'homme sans enfant, le père protecteur de tous les soldats. Et la bataille de Verdun, en 1916, a radicalement changé son destin, en lui offrant l'opportunité inouïe d'endosser ce rôle.
De tous les soldats qui participèrent à cette épopée, le fantassin de Verdun fut celui de qui tout dépendait. Premier artisan de la victoire qu'il a conquise à force de souffrance, il est à placer le plus haut dans le respect reconnaissant de la nation.
Philippe Pétain, icône de la Première Guerre mondiale, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier. Reportage, Martine Abbat. Mixage, François Saint-Jour. Prochain épisode, Le vainqueur de Verdun. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter.